Il est 9h sur France Culture et voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'opposition appelle à manifester en masse aujourd'hui au Venezuela, le président élu mais contesté, Nicolas Maduro se dit favorable à des élections législatives anticipées pour mettre fin à la crise politique qui déchire le pays. Dans un entretien à l'agence publique russe RIA Novosti, le président socialiste rejette par ailleurs tout ultimatum et il assure que la prochaine présidentielle n'aura pas lieu avant 2025. Pendant ce temps, l'opposant Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale qui s'est proclamé chef de l'État par intérim la semaine dernière, réclame lui plus de sanctions de la part de l'Union européenne contre le régime Maduro. Il appelle les 28 à s'inspirer de ce qu'ont décidé les États-Unis, comme ces sanctions économiques contre l'entreprise publique pétrolière du Venezuela, la PDVSA. Caracas tire 96% de ses revenus du pétrole et ces sanctions américaines pourraient non seulement asphyxier le gouvernement, mais aussi la population. Le reportage à Caracas de Benjamin Delisle.
Dans le quartier de Chacao, réputé d'opposition, on se prépare doucement à la manifestation de ce mercredi. Pour bon nombre d'opposants, les sanctions qui devraient aggraver l'hyperinflation et les pénuries sont un mal nécessaire. C'est ce que pense Andrés, 21 ans.
Malheureusement, ça va affecter la population parce que c'est la première source de revenus du pays. Même si ça mène à un vrai changement, ça vaut le coup.
Tous ici s'accordent pour dire que n'importe quelle forme de pression contre Nicolas Maduro ne peut qu'être bénéfique. Pour Herminias, il faut accepter un dernier sacrifice après toutes les souffrances liées à la crise économique, il faut le faire.
Vous savez, nous, les Vénézuéliens, on est habitués à vivre en crise. Ce qui nous a poussés à manifester, à nous révolter, c'est la faim. Le fait de vivre l'inflation au jour le jour, ça y est, on est habitués.
Pour Daniel, 59 ans, ces sanctions vont contraindre le gouvernement à négocier sa sortie en s'attaquant à son porte-monnaie.
Ils essayent de faire en sorte que cette dictature, qui usurpe le pouvoir, puisse partir pacifiquement. Ils essayent d'éviter au maximum la perte de vies humaines.
Pourtant, dans un message adressé aux États-Unis, lundi, Nicolas Maduro prévenait Donald Trump que si du sang venait à couler au Venezuela, ce serait de sa faute.
Et toujours au Venezuela, le syndicat national des travailleurs de la presse dénonce ce matin l'arrestation de 2 journalistes chiliens et de 2 reporters vénézuéliens. Ils ont été interpellés hier soir par des membres de la sécurité présidentielle tout près du palais de Nicolas Maduro à Caracas. À seulement 2 mois du Brexit, la première ministre Theresa May a obtenu hier des députés britanniques un mandat pour ouvrir les négociations avec Bruxelles et notamment éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. Si les 27 ont refusé de rediscuter un texte négocié âprement pendant 2 ans, le président du Conseil européen, Donald Tusk, se dit tout de même prêt à considérer toute demande raisonnable de Londres pour repousser la date du Brexit au-delà du 29 mars. Reste à savoir quelles propositions seront jugées acceptables par Bruxelles. Retour à la case ONG pour l'ancien ministre Nicolas Hulot. Il promet, celui qui a promis de revenir dans l'arène politique pour défendre la transition écologique, doit dans un premier temps retrouver aujourd'hui la tête de sa fondation pour la nature et l'homme. Un retour analysé par Stéphane Diéric du collectif citoyen pour le climat.
Je trouve qu'il a eu exactement la bonne réaction et que sa démission du gouvernement a fait presque plus pour la cause climatique que les quelques mois qu'il a pu passer au gouvernement et pendant lesquels je pense que malgré toute sa bonne volonté, il n'a de toute façon pas réussi à changer les choses. Moi, c'est le mouvement qui a été déclenché par sa démission qui m'a poussé à m'engager, clairement. En tout cas, qui m'a donné les moyens et qui m'a donné la possibilité d'avoir d'autres personnes qui s'engageaient, parce que quand on s'engage tout seul, c'est plus compliqué. Voilà, sa démission a déclenché ça également. Sa démission a permis cette émergence citoyenne. Et moi, c'est cette énergie-là qui me permet de m'engager aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme pourrait prendre son retour. Il a déclaré, je pense, il y a quelques jours, que notre seule chance, c'était que les citoyens se mettent à bouger. Donc, j'imagine que s'il revient, ce sera aux côtés de citoyens et aux côtés éventuellement d'associations, de collectifs citoyens qui luttent pour le climat. Et je pense que revenir par la base plutôt que revenir par la tête d'un gouvernement ou d'un État, il a probablement compris que c'était finalement ce qui pouvait être le plus efficace pour la cause climatique.
Stéphane Diric du collectif Citoyen pour le Climat au micro de Véronique Rebérotte. Le temps de ce mercredi 30 janvier marqué par cette vigilance orange pour neige et verglas dans 15 départements à cause de la tempête Gabriel qui poursuit sa route vers l'est de l'Hexagone. 2300 foyers sont privés d'électricité encore ce matin dans les Yvelines. 2000 foyers également sans courant en Charente-Maritime. Pas de transport scolaire dans le Puy-de-Dôme, l'Allier ni le Cantal, tout comme dans les Hauts-de-France, région où la circulation des poids lourds est par ailleurs interdite. La Fédération des acteurs de la solidarité rappelle que des milliers de personnes sans abri sont en danger faute d'hébergement disponible. 600 places manquent par exemple à Lyon, plus de 1500 à Lille. Les températures au meilleur de la journée seront comprises entre 1 et 5 degrés sur le nord et l'est du pays en passant par la région centre, 5 à 11 degrés partout ailleurs. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Marette.